Dans les années 1997 à 2002, j'ai beaucoup joué au tennis. J'étais licencié dans un club. Comme on dit souvent, j'y allais, je tapais la balle, je tapais dans la balle avec les camarades et on avait beaucoup de plaisir à se retrouver. J'aimais aussi passer du temps simplement à regarder jouer des joueurs qui avaient un classement, un niveau bien supérieur au mien. Et il y avait de bons joueurs dans ce club où j'étais. Et je me suis aperçu qu'il y avait très souvent une joueuse de tennis. Alors parfois elle jouait avec une autre joueuse ou même un joueur. Et puis d'autres fois, elle était seule sur le court de tennis avec un gros panier de balles et elle servait toutes les balles du panier. Et quand le panier était vide, elle changeait de côté, elle ramassait toutes les balles pour les remettre dans le panier et c'était parti pour une nouvelle série de services dans l'autre sens. Alors il y en avait plus que ça encore, hein. Mais c'est pour donner une idée. Et là, moi, je me suis questionné, mais faut être quand même dingue pour faire ça. Autant jouer avec quelqu'un qui renvoie la balle, c'est super, mais servir comme ça pendant des heures, c'est quand même assez incroyable. Et puis un jour, cette joueuse était là, à servir toute seule, et je me suis dit, là, je vais aller lui demander. Pourquoi est-ce qu'elle fait tout ça aussi régulièrement? Et est-ce qu'elle y voit un intérêt? Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'elle fait des progrès au moins? Et puis en échangeant quelques mots avec elle, j'apprends qu'il s'agit d'Elsa Morel. Alors Elsa Morel, peut-être ça vous évoque rien. On est au passage des années 2000 environ, mais Elsa Morel, c'était à l'époque la 25e meilleure joueuse française et dans les 300 premières mondiales. Voilà, grand moment de solitude. On se sent tout petit hein, dans ces moments-là. Et en fait, j'ai compris cette joueuse que je voyais régulièrement servir toute seule et qui allait ensuite ramasser les balles, etc. Elle était tout sauf cinglée ou quoi. Non, en fait, Elsa Morel était disciplinée. Elsa Morel s'entraînait dur. Et c'est avec cette petite illustration en tête que je nous invite à lire ce que l'apôtre Paul dit à Timothée, son enfant dans la foi, dans la première lettre qu'il a écrite à Timothée, au chapitre 4, on lira les 8 premiers versets. Et le texte qui est affiché, c'est celui de la colombe. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant cela aux frères, Paul à Timothée, donc, Timothée, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Mais repousse les fables profanes, contes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Paul dit à Timothée, je relis ces deux versets qui seront au cœur hein, de ce que je vais développer ce matin. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Curieuse, hein, cette formule, l'exercice corporel est utile à peu de choses. De nos jours, on entend plutôt l'inverse. L'exercice physique, c'est nécessaire, c'est fortement recommandé. Ça a des effets bénéfiques sur le mental, sur la santé, ça atténue le stress, etc. Il y a énormément de vertus à faire de l'exercice physique. Alors en fait, il ne faut pas ici séparer cette déclaration de ce qui suit. Quand Paul dit « Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. » Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Une opposition entre le peu ici et le tout. Le peu qui est attribué à l'utilité de l'exercice corporel qui s'applique à qu'on va mettre en œuvre pour tenter de remporter une victoire avec des lauriers, une victoire incertaine hein, d'ailleurs, et puis des lauriers, et puis toute cette victoire, finalement, ce sera très éphémère, et ça n'a pas finalement beaucoup d'importance. Une opposition entre le peu et le tout ici qui s'applique à la grande victoire, la vie promise dans le présent et jusque dans la vie à venir. Dans le passage qui est juste au-dessus, là, que j'ai voulu lire pour remettre un peu de contexte à ce que Paul dit à Timothée dans les versets 7 à 8, on voit où, dans le monde dans lequel se trouvait Timothée, à Éphèse, dans cette ville d'Éphèse, un monde marqué par, là, on le sait, hein, ça n'a pas changé, l'influence du mal, ses conséquences, un ensemble de choses complètement inutiles. Et des personnes qui s'y adonnaient, qui se lançaient dans des philosophies, dans des fables, etc. Eh bien, dans ce contexte-là, la notion d'exercice, elle sert de point d'appui à l'apôtre Paul pour basculer du côté de ce qui est vraiment utile, de ce qui est pertinent. Paul passe de ces fables absurdes, etc., à l'exercice. Il passe de l'inutilité de toutes ces choses qu'il vient de mentionner et qu'il finalement invite à rejeter à ce qui est vraiment utile. Et cette utilité de l'exercice sur le plan physique sert de tremplin pour dire la surutilité de la piété sur le plan spirituel, donc. Paul dit à Timothée, ne fais pas attention à toutes ces choses. Exerce-toi à la piété. Tu en seras béni. Tu y verras des bénéfices pour la vie présente et jusque dans la vie à venir. Vas-y, Timothée, exerce-toi plutôt à la piété. Paul met l'accent ici vraiment sur la surutilité de la piété. Alors, qu'est-ce que c'est que la piété ? Qu'entend-on par ce terme ici ? C'est la consécration personnelle à Dieu, une dépendance à Dieu, un attachement à Dieu en toutes circonstances. La Bible du Semeur traduit « Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu ». Rester attaché à Dieu, pour traduire ce qu'est le sens de la piété, l'attachement à Dieu. La piété, ça requiert une obéissance qui dépasse les seules paroles, le simple émoi ou l'admiration devant Dieu. Ça nous engage, ça nous responsabilise. Et en tant que disciples de Jésus, la piété a pour but de nous apprendre à connaître toujours plus notre Dieu et à nous conformer à sa parole, à ses lois, à ses commandements. Mais alors, comment mettre en œuvre cette piété dans notre vie au quotidien ? Quand Paul évoque ici l'image de l'exercice physique au verset 7, au verset 8, il a en tête l'engagement des athlètes qui nécessitait une longue préparation, faite d'exercices qui étaient maintes fois répétés, de discipline. Ah, la discipline. On n'aime pas beaucoup ce mot discipline. Ça rime avec des choses que... Ça nous évoque des choses pas toujours très sympathiques. La discipline peut-être que certains ont vécu au service militaire. La discipline, soldat, la discipline. Vous n'arriverez à rien sans discipline. Le conseil de discipline. La discipline dans son travail, dans ses études, etc. etc. Et parfois, on reçoit un relevé de notes et une appréciation disant « manque de discipline dans son travail ». Bon, ce n'est pas très encourageant quand on reçoit ça. En fait, quand on y réfléchit bien, beaucoup de choses dans notre vie nous demandent d'exercer de la discipline. Et il y a des étudiants parmi nous ce matin, ils en savent quelque chose. Les études, le lycée, le collège, ça requiert de la discipline pour apprendre, pour mémoriser, pour restituer. Notre sommeil nécessite de la discipline. Notre sommeil. Si on ne se couche toujours très tard, rapidement, on ne tiendra pas, on va être fatigué. Il faut être discipliné pour se coucher aux bonnes heures. Notre alimentation nécessite de la discipline. Notre alimentation. Autrement, on mangerait n'importe quoi, n'importe quand, et on en verrait assez rapidement les résultats. Tout dans notre vie, ou en tout cas beaucoup, beaucoup de choses dans notre vie, demandent d'exercer de la discipline. Même parfois, on exerce de la discipline sans s'en rendre compte. Par exemple, la gestion de notre batterie de téléphone portable nécessite un minimum de discipline, sinon on partirait tous les matins avec « Ah, j'ai déjà plus de batterie », parce qu'on a oublié de le mettre en recharge. Et on le fait finalement presque spontanément. À en croire certains, il y en a qui manquent de discipline dans la gestion de leur batterie de téléphone. Bon. La discipline, est-ce que c'est quelque chose que l'on entend uniquement dans le milieu du sport, dans le milieu scolaire, dans le milieu de l'armée ou encore ailleurs? Est-ce que ce n'est pas quelque chose aussi qui est nécessaire dans notre vie et dans notre vie spirituelle, dans notre piété? Et bien sûr que oui, la discipline est utile pour notre piété. Notre vie chrétienne n'échappe pas à cela. Si nous voulons grandir à la ressemblance de Jésus, qui est le thème de notre série sur la spiritualité chrétienne, eh bien ça nécessite là aussi une discipline. Alors j'entends par discipline ici cette discipline qu'on s'impose à soi-même, pas tellement la discipline que la Bible parle par ailleurs, par exemple en Hébreux chapitre 12, la discipline que le Seigneur exerce à notre égard. C'est un autre sujet qui est en lien, mais que je n'aborderai pas ici. Je veux parler vraiment de la discipline qu'on se donne pour grandir à la ressemblance de Jésus. Donc j'ai parlé de la surutilité de la piété, une piété qui implique une discipline, et j'aimerais parler aussi du fait que la discipline implique à son tour des efforts. Le mot utilisé dans le texte original, donc en grec, pour dire « exerce-toi » dans le texte de 1 Timothée 4, verset 7, c'est le mot qui a donné en français le mot « gymnase ». Le gymnase, c'est le lieu où l'on s'entraîne, où l'on s'exerce, où on fait des efforts pour faire notre activité sportive, d'une manière générale, ou voilà, la gymnastique, ou du sport en général. Un chrétien qui rêve de devenir comme son sauveur, mais qui n'est pas prêt à faire des efforts, il est semblable en fait à un sportif qui rêve de remporter le prix sans s'entraîner dur, sans persévérer. Elsa Morel a travaillé dur pour atteindre le niveau qu'elle a eu au passage des années 2000. Elle ne s'est pas réveillée un matin en disant « ça y est, je suis 25e meilleure joueuse française et 280 à 300e meilleure joueuse mondiale ». Mais elle a travaillé avec endurance, avec persévérance. Ça ne s'est pas fait tout seul, comme par enchantement. Nous sommes souvent prêts à faire des efforts pour progresser dans plein de domaines de notre vie, pour réussir un examen, pour réussir, par exemple, un entretien d'embauche, ou pour le passer le code de la route, pour progresser dans l'apprentissage d'un instrument de musique, pour rapprendre et retenir les verbes irréguliers en anglais, pour mieux servir au tennis comme Elsa Morel ou que sais-je encore. Mais est-ce que nous sommes tout aussi prêts à faire des efforts dans notre relation à Dieu pour continuer de grandir à la ressemblance de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur? Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec une personne quand j'étais converti j'avais quelques années de vie, de marche avec le Seigneur, et je lui disais, mais voilà, j'aimerais arriver à lire davantage la Bible, à prier plus, j'ai du mal et j'y arrive pas. Puis je disais à cette personne, est-ce que tu aurais un conseil, quelque chose à me donner, quoi, pour que je puisse y arriver? Et cette personne de me répondre, ah, j'ai quelque chose pour toi, mais je ne sais pas si ça va te faire plaisir. Alors je lui dis, c'est quoi? Et la personne me dit, fais un effort. Wow. Moi, je ne m'attendais pas trop à ça. Je m'attendais à, vous savez, le truc miracle qui allait faire que j'allais me lever à 5h30 tous les matins pour lire la Bible, pour prier. Puis le truc, quoi. Et en fait, non. Fais un effort. Et en fait, cette personne, elle avait raison. Ça ne tombe pas du ciel. Vivre sa foi chrétienne au quotidien, ça demande des efforts, ça demande de persévérer. Lire la Bible, ça demande d'organiser son temps, ça demande de revoir peut-être certaines priorités. Ça ne se fera pas sans une certaine discipline et sans effort. C'est valable aussi pour la prière. C'est valable aussi dans notre lutte contre le péché. Ça demande une certaine discipline. Ça ne se fait pas sans effort. Dans un autre contexte, l'apôtre Paul a écrit ceci à son égard. En 1 Corinthiens 9, « Moi donc, je cours non pas à l'aventure, je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air, au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. » Il ne s'agit pas de la perte de son salut ici, c'est plutôt la disqualification dans l'annonce de l'Évangile, dans son rôle en tant qu'apôtre, dans la prédication de la parole. Mais il avait ce souci de traiter son corps, d'être vigilant à toutes les tentations qu'il peut y avoir. Ça ne faisait pas de lui quelqu'un de parfait, mais en tout cas, il avait cette discipline avec lui-même, ses efforts qui vont avec. Et le Nouveau Testament contient un nombre important d'exhortations de ce type-là, qui sont souvent d'ailleurs orientées à l'impératif pour nous responsabiliser, nous engager à marcher dans la sainteté, à poursuivre la sainteté, à combattre contre la tentation, à tenir ferme en Christ, à persévérer et j'en passe. Et c'est d'autant plus fort que toutes ces exhortations, on les trouve dans la bouche de Jésus, mais on les trouve aussi sous la plume de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Jean, de Jacques, même de l'auteur à l'épître aux Hébreux. En fait, elles sont partout dans le Nouveau Testament. La discipline et l'effort ont bien leur place dans la vie du disciple de Jésus. Alors, ayant dit tout cela, j'aimerais terminer avec deux considérations importantes au sujet de cette discipline, de ces efforts. La première considération, c'est que la discipline et les efforts, ce n'est pas du légalisme, mais c'est une question de motivation. S'imposer une discipline de vie spirituelle, ce n'est pas se replacer ou risquer de se replacer sous une loi, un ensemble de lois. La discipline, ce n'est pas du légalisme. Il faut faire ceci. Il ne faut pas faire cela. Tu veux plaire au Seigneur? Alors voilà, tana. Ça, c'est du légalisme. Et il y a une différence importante entre la discipline et le légalisme. Le légalisme, il est centré sur soi. Je fais telle ou telle chose, je ne fais pas telle ou telle chose en vue de mériter la faveur de Dieu ou des réponses à mes prières, à Dieu, etc. Ça, c'est le légalisme centré sur soi. Par contre, la discipline, elle est centrée sur la personne de Dieu. Par égard pour tout ce que Dieu a fait pour moi, pour nous, eh bien, je veux l'aimer, je veux m'efforcer de lui être agréable. Et pour cela, je me donne une discipline de vie, parce que je veux qu'il soit en premier dans ma vie. Je ne fais pas pour mériter quelque chose de la part de Dieu, mais je fais parce que Dieu le mérite. C'est toute la différence. La lecture de la Bible, si on voulait prendre un exemple. Je ne vais pas lire la Bible pour mériter quelque chose de la part de Dieu, pour me donner l'impression d'être un bon chrétien, une bonne chrétienne, pour cocher une case dans un planning de lecture, un programme de lecture de la Bible ou quoi. Non, mais je vais lire la Bible parce que, convaincu qu'elle est la parole de Dieu, convaincu qu'elle contient tout ce dont j'ai besoin pour mener ma vie, pour me nourrir spirituellement, convaincu que j'y trouverai tout ce dont j'ai besoin pour plaire au Seigneur, en retour de ce qu'il a fait pour moi. La motivation est radicalement différente entre le légalisme et la discipline. Une discipline et des efforts qui vont avec la discipline, qui sont motivés par le désir de plaire au Seigneur, de lui obéir, de lui ressembler, en retour de tout ce qu'il a fait pour moi. Donc ce n'est pas s'imposer une loi, ce n'est pas du légalisme, c'est vraiment une question de motivation. Et la seconde considération, dont je voulais parler aussi, oui à une discipline et à des efforts, mais non sans la dépendance à Dieu et à sa grâce. La discipline ne s'oppose pas à la dépendance à Dieu et à sa grâce. J'ai même envie de dire au contraire. La grâce de Dieu s'oppose à l'idée de mérite. La grâce, par définition, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Donc la grâce de Dieu s'oppose à l'idée de mérite. Mais la grâce de Dieu ne s'oppose pas à la discipline et à l'effort. Notre marche avec le Seigneur, nous allons y avoir des moments avec des hauts et puis des moments avec des bas. Des moments où nous allons marcher de progrès en progrès, puis d'autres moments où nous allons retomber, chuter. D'où l'importance de compter sur la grâce de Dieu pour nous relever et pour continuer sur le chemin. C'est la grâce de Dieu qui fonde notre discipline. Sans la grâce de Dieu, comme on l'a chanté d'ailleurs dans un chant précédent, nous ne pouvons pas être changés, transformés pour ressembler davantage à notre Seigneur Jésus. C'est Dieu qui nous transforme dans sa grâce. Et la grâce rend possible notre discipline spirituelle, conjuguée à nos efforts. La grâce donc supprime la notion de mérite, mais pas la notion de discipline. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, alors que nous ne le méritons pas. Et la grâce de Dieu suscite en nous cette discipline pour rester attachés davantage à Dieu, pour exercer la piété, cet attachement à Dieu. Il me semblait vraiment important de considérer ces deux choses, une discipline et des efforts. Ce n'est pas du légalisme, c'est vraiment une question de motivation. Et oui, à une discipline et des efforts, mais non sans la dépendance à Dieu et à sa grâce. Il est temps de conclure. Un professeur à l'Institut biblique de Nogent, où nous avons fait nos études, Laura et moi, nous disait « Si vous voulez faire quelque chose de fort, il faut de l'effort. » C'est universel, vous en conviendrez, ça vaut dans n'importe quel domaine. Elsa Morel était disciplinée dans ses efforts et ça lui a permis de progresser au tennis et d'engranger des victoires et d'avoir un haut niveau dans ce sport qu'elle pratiquait. Mais cela vaut aussi dans notre foi, pour notre vie chrétienne, pour notre piété, notre attachement au Seigneur Jésus. Si nous voulons marcher de plus en plus avec le Seigneur et dans cette volonté de lui ressembler, de grandir à la ressemblance de Jésus-Christ, il ne suffit pas seulement de le vouloir. Il faut être prêt à en payer le prix. le prix de la discipline, de l'effort. J'ai conscience que c'est difficile de parler de cela, de discipline, d'effort, alors qu'il y a plusieurs étudiants avec nous, on est le dimanche 19 avril, c'est le début des vacances de printemps. Et... c'est bon, les efforts, je viens d'en faire pendant 6-7 semaines. Mais avec le Seigneur Jésus, il n'y a pas de vacances. On est en marche tout au long de l'année, même pendant les grandes vacances d'été. Et peut-être que c'est le moment, justement, pendant les 2 semaines qui sont devant, pour les étudiants et pour les grands parmi nous, vu qu'il y aura peut-être un peu moins de travail, un peu moins d'exigences académiques, peut-être, un peu moins, peut-être, de renouveler, de remettre en place une discipline, quelque chose qui c'est souvent plus facile à faire quand il n'y a pas d'autres exigences ou moins d'autres exigences à côté, quand on a besoin de remettre un peu d'ordre dans ses priorités, peut-être un temps de vacances, ça peut être le bienvenu. Repensons à cela. Tout comme un athlète qui va s'entraîner dur pendant des heures, pour se préparer pour le jour de sa compétition sportive, quelle qu'elle soit, eh bien de même c'est par un cœur discipliné, qui aime le Seigneur et qui agit pour lui, et en comptant sur lui et sur sa grâce que nous allons avancer et que nous allons progresser dans la vie chrétienne, que nous grandirons à la ressemblance de Jésus-Christ, que nous serons davantage prêts aussi pour affronter toutes les vicissitudes de la vie. Et je nous pose la question à chacun ce matin, où en sommes-nous, où en es-tu dans ta piété? Quelles sont les motivations qui t'animent le plus? Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui t'anime dans ta relation avec le Seigneur? Ou dans ta relation avec les êtres humains? Est-ce que tu préfères plaire aux hommes? Aux êtres humains? Plaire à toi-même? Rechercher ton bonheur personnel? Plaire au Seigneur? Oui, mais si c'est pour plaire au Seigneur, est-ce que c'est pour mériter sa faveur? Pour qu'il réponde à tes prières? Ou bien plutôt pour lui plaire en retour de son amour pour toi? Cette exhortation de l'apôtre Paul à Timothée, en 1 Timothée 4, les versets 7 et 8, nous interpelle et résonne encore pour nous aujourd'hui. Chers disciples de Jésus-Christ, par amour pour le Seigneur Jésus, et en comptant sur sa grâce, exerce-toi avec discipline et par des efforts, car cela conduit à la piété. Amen.